Voilà, je suis très content de passer ces moments avec vous, à chanter, à célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Et je m'appelle Samuel et je suis un des pasteurs ici. Je vais vous apporter le message ce matin. Nous étudions, comme disait Vincent, l'Évangile selon Matthieu. Et nous avons appelé cette série « Que ton règne vienne ». Que ton règne vienne, c'est une phrase qui vient du Notre Père. Mais justement, dans cette phrase du Notre Père, Père, de cette prière, que ton règne vienne, il est sous-entendu que tout n'est pas encore parfait, tout n'est pas encore réglé dans ce monde, et ça correspond à notre vécu et l'aspiration de notre cœur, qu'un règne de paix, d'amour, de justice vienne, ce qui n'est pas encore le cas. Il y a encore la présence du mal et de la méchanceté dans ce monde qui nous fait réfléchir. D'où viennent-ils ? Quelles sont les causes de la mal et du méchanceté? Selon la Bible, le mal se définit en opposition à Dieu, à sa bonté, à sa vérité. Et selon la Bible aussi, il y a un être, il y a une puissance qui s'appelle Satan, ou l'adversaire, ou le diable, ou l'accusateur, ou le tentateur, ou le père du mensonge, aussi le prince de ce monde, Lucifer, le serpent ancien, le malin, lui qui s'oppose à Dieu. Et dans la vision biblique, son existence et son influence expliqueraient une grande partie du mal dans ce monde. Baudelaire le dit mieux que moi. C'est le diable qui tient les fils, qui nous remue aux objets répugnants, nous trouvant des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Donc selon Baudelaire, c'est le diable qui tient certaines fils, qui nous remue. Et sa ruse, son mécanisme, c'est de rendre ce qui est répugnant, ce qui devrait nous être répugnant, le péché, en quelque chose de désirable, et donc nous avançons sans horreur dans le mal. Et ça, c'est son travail. Or, dans un défi de la vision athée, la vision purement matérielle, c'est d'expliquer, c'est de pouvoir même dénoncer le mal en tant que tel. Sur le plan purement scientifique, sur le plan purement pragmatique, sur le plan moléculaire, qu'est-ce que Hitler a fait de mal? Est-ce que Hitler a vraiment fait le mal? J'ai trouvé cette citation aussi intéressante dans un commentaire. Lorsque la croyance au diable est expulsée par la porte d'entrée, une nouvelle puissance maléfique, une nouvelle théologie du mal, quel que soit son nom, réapparaît avec vengeance par la porte arrière. En Allemagne, une théologie libérale progressiste, protestante, s'est débarrassée du mythe du diable pour ensuite se retrouver face aux forces hyper démoniaques du nazisme qui a choisi de diaboliser les juifs. Effectivement, si vous supprimez l'explication surnaturelle, spirituelle du mal, vous ouvrez des portes à des idéologies qui deviennent souvent violente et diabolique à 200%, où c'est la force des armes et la violence sanguinaire qui avance. Donc ce matin, nous voulons rappeler qu'il y a une explication spirituelle et surnaturelle au mal, donc sans vouloir blâmer le diable pour tout. Si votre café n'était pas chaud ce matin, si vous avez crevé, un pneu a crevé, ce n'est pas forcément le diable, ce n'est pas forcément un démon derrière tout ça. Donc, sans blâmer le diable pour tout, il y a aussi notre propre cœur, un pécheur qui explique beaucoup. Mais nous voulons, lorsque nous prions, par exemple, que ton règne vienne, nous voulons rappeler que juste après, Jésus aussi nous a appris à prier, délivre-nous du mal. Certains préfèrent la tradition, délivre-nous du malin. Et nous croyons que c'est une explication puissante pour expliquer le mal autour de nous et le mal en nous. Et lorsque nous prions que ton règne vienne, délivre du mal, le texte que nous allons étudier ce matin est en grande partie un exaucement à cette prière. Comment être délivré du malin? Comment ne pas tomber dans la tentation? Nous allons lire la fois où Jésus a été tenté par le diable lui-même en Matthieu chapitre 4. Je vous invite à chercher Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Le Satan tentateur contre le roi sauveur. Je vous lis Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le Seigneur le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Voilà, que ton règne vienne, pour que le règne de Dieu vienne, il va falloir que le vrai roi de ce monde, Jésus, détrône le prince de ce monde, l'usurpateur. Et ce qui est très encourageant, très optimiste, dans ce passage et dans l'ensemble de la Bible, le Nouveau Testament, c'est que dans cette première rencontre entre Jésus et Satan, dans le Nouveau Testament, Satan est déjà un ennemi vaincu, un ennemi impuissant face à Jésus. Donc, comme disait Vincent tout à l'heure, nous vivons dans cette certitude que le mal ne va pas triompher dans ce monde. Et ça change tout. René Girard, ce grand penseur français, a intitulé son livre « Commentaire sur ce chapitre »« J'ai vu Satan tomber comme un éclair ». C'est une phrase que Jésus lui-même va dire plus tard. Mais effectivement, « J'ai vu Satan tomber comme un éclair » décrit bien ce chapitre. Comme d'autres scènes dans la Bible, Satan a connu une chute prodigieuse depuis le début jusqu'à la fin. Toute la Bible raconte en quelque sorte la chute de Satan. Mais dans ce chapitre, nous trouvons une bataille épique entre le roi, Jésus, et Satan, le prince de ce monde. Et pour Satan, ce serait une défaite déterminante, pas la dernière, mais déterminante, et ce qui va nous aider aussi à vivre le règne de Christ dans nos propres cœurs. Alors ce matin, je vous propose dans ce texte d'y voir le Messie éprouvé et qualifié, ensuite le diable dénoncé et exposé, et enfin le croyant représenté et sauvé. Voyons le Messie éprouvé et qualifié, tout d'abord dans ce chapitre. Le ministère public de Jésus commence avec deux événements forts pour nous montrer clairement qu'il est bien le Messie, choisi par Dieu, loin, choisi par Dieu, le roi, choisi par Dieu, le sauveur, envoyé par Dieu. Le premier, c'est son baptême, où il y a cette approbation divine publique sur Jésus en tant qu'accomplissement des promesses et le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, pour accomplir la justice. Donc ça, c'est déjà un premier signe que Jésus est bien le Messie. Et puis, c'est un deuxième événement qui va montrer que Jésus est qualifié d'être le roi, le Messie. C'est cette confrontation avec Satan qui sert en quelque sorte de qualification à la vocation qu'il a d'être Messie et le roi. Pour jouer dans la cour des grands, il faut passer des épreuves de qualification. Je crois pour la Coupe du Monde, c'est déjà bien entamé, les qualifications. Ou, vous savez, pour certains métiers, après un temps de formation, il faut passer une épreuve pour se montrer qualifié. Même pour le permis de conduire, vous êtes formé, vous savez conduire, mais il faut prouver à tout le monde que vous savez bien conduire. Et cette scène entre Jésus et Satan sert en quelque sorte, puisque c'est au début des évangiles, de montrer qu'il est bien qualifié d'être le Messie. Donc c'est Dieu lui-même qui l'amène dans le désert pour être éprouvé, pour qu'il se montre le vrai roi, le vrai Messie. Ça fait penser un peu à David et Goliath. David avait été oint comme roi avant, dans un chapitre par le prophète Samuel. Mais c'est après le chapitre suivant qu'il va avoir son combat contre Goliath, et c'est ça qui va, aux yeux de tout le monde, montrer qu'il est bien, par la suite, il sera un bon roi, parce que lui était capable d'affronter Goliath et de gagner. Même chose ici, Jésus a été en quelque sorte roi par son baptême, et maintenant il doit faire ses preuves devant le champion du mal qui est Satan. Et donc, pour rester un peu dans les images du sport, les épreuves de qualification, il y aura, Jésus va, au fil de ses tentations, plusieurs épreuves ou plusieurs questions vont se poser pour lui. Je les ai un peu listées ici, je vais les commenter. Mais vous voyez que ces tentations vont servir à montrer que Jésus est bien qualifié pour être roi. Première question, Jésus est-il un roi plus puissant que le prince de ce monde? C'est-à-dire, il y a le champion de boxe, si vous voulez le détrôner, il faut être plus fort que il faut être plus fort. Donc la question, est-ce que Satan, qui est prince de ce monde, est-ce que Jésus sera plus fort? Et au fil des tentations, Jésus va se montrer plus fort. Une autre question, Jésus va-t-il tricher pour accomplir sa mission? Vous savez, maintenant, dans les courses de vélo, c'est un problème, ils mettent des moteurs électriques cachés dans le cadre. Alors là, on est bien à la montée avec un moteur électrique, mais c'est un peu la triche. Et on est disqualifié si on s'en sert d'un moteur électrique comme du dopage. Donc la question, est-ce que Jésus va tricher en utilisant ses pouvoirs divins lorsqu'il doit nous représenter en tant qu'être humain, parce qu'il est venu pour accomplir toute justice, notre justice, et il a été même baptisé, il vient d'être baptisé au milieu des pécheurs pour montrer que voilà, je viens pour... il est entièrement homme, comme nous avons vu tout au long du mois de décembre. Il est entièrement Dieu et entièrement homme. Donc il doit vivre une chair humaine, il doit accomplir son rôle de roi et de messie en tant que Dieu, mais aussi en tant qu'homme. Donc est-ce qu'il va, quand c'est difficile, quand personne ne regarde, est-ce qu'il va tricher en faisant des... comme cette moteur électrique, dans un cadre de vélo, est-ce qu'il va tricher pour faciliter sa vie? C'est un peu la première tentation. Regarde, si jamais tu as faim, si jamais tu souffres, si jamais tu es fatigué, tu te fais un petit miracle divin, et comme ça, c'est plus simple. Mais cette tentation montre que Jésus ne va pas tricher, en quelque sorte, avec ses pouvoirs divins, sa divinité, lorsqu'il s'agit d'accomplir aussi notre humanité. Une autre question, quand Jésus se trouve au plus bas, tout seul, fatigué, en extrémiste, va-t-il tenir? La première tentation va servir à l'éprouver dans ce genre. Et plus tard, sur le chemin de la croix, ça va aussi, il va falloir qu'il tienne là aussi. Donc, après 40 jours, il a vraiment faim, dit le verset. Et Satan va exploiter cette faiblesse, voire en extrémis, pour dire, voilà, tu peux abandonner quand tu veux, c'est facile. Et Jésus se montre fort ici, mais c'est aussi en vue de la même chose qu'il va faire sur la croix. On va lui dire, hey, tu es sur la croix, mais si tu es le fils de Dieu, descends de la croix, c'est plus simple. Donc est-ce que Jésus, quand il se trouve au plus bas en extrémiste, va-t-il tenir? La réponse est oui. Une autre question, une autre épreuve, okay, donc ça c'est lorsqu'il est au plus bas, fatigué, mais une autre question, si Jésus est vraiment au sommet de la gloire et de la réussite et de l'adulation des foules, est-ce que ce sera un piège pour lui? Est-ce que l'orgueil va le prendre? Comme c'était le cas de Satan, notamment Satan, selon la Bible, est un ange magnifique, un ange glorieux, qui, lorsqu'il était au sommet un peu de la gloire et de la bénédiction divine, ça lui a monté la tête et il est tombé dans le piège de l'orgueil. Est-ce que, donc, la deuxième tentation sert de montrer un peu ça aussi. Jésus, il est tout seul dans le désert, en extrémisme, mais après Satan l'amène vraiment au sommet du temple. Jette-toi, tu pourrais impressionner les foules en bas. Et avoir l'adulation des foules, est-ce que Jésus va résister à ça? Et ce serait pratique pour lui plus tard lorsqu'il va faire ses miracles et toutes les foules vont vouloir le couronner, l'applaudir. Jésus résiste à cette tentation puisqu'il marche vers la croix. Une autre question qui va se poser, Jésus connaît-il sa Bible? C'est comme les règles du jeu dans un match de sport. Si tu connais mieux les règles du sport, des fois tu gagnes. Donc Jésus connaît-il sa Bible? Est-ce qu'il le connaît mieux que Satan? Voilà à quoi ces épreuves vont aussi servir à montrer. Autre question, Jésus va-t-il prendre des raccourcis dans sa mission d'être le Messie et le Sauveur. Vous connaissez peut-être cette histoire d'une marathonienne, je crois que c'était à New York. Elle a commencé le marathon, après quelques minutes elle était fatiguée. Elle a pris le métro, elle est sortie d'un métro, elle a terminé la course, 11e, magnifique. Mais est-ce que vraiment la victoire lui revient? Et puis elle a retenté la même chose à Boston, il faut le faire. La question pour Jésus aussi, dans ces épreuves de qualification, si c'est comme un peu le sport, lui, il fait plus qu'un marathon, il va devoir aller jusqu'à la croix. Mais Satan lui propose un petit raccourci. Tu peux avoir la gloire, c'est la troisième tentation. Je te donne toute la gloire, je te donne quelque part ce qui va te revenir de toute façon, mais un petit raccourci, te prosterne devant moi, tu évites le grand boucle de la croix, et tu ressors comme gagnant et même pas en sueur. C'est comme ça qu'ils ont repéré la triche. Et t'es pas en sueur. Et enfin, la question, peut-on lui acheter? C'est-à-dire, quel est son prix? Satan, dans la troisième tentation, dit, je te donne toute la gloire du royaume si tu m'adores. Dans le sport, malheureusement, des fois on propose pour 450 000 euros, on fait un petit prêt détourné, je crois que c'est l'actualité. Tu peux jouer pour notre équipe et voilà. Quel est ton prix? Quel était le prix de Jésus? Et il résiste encore à tout ça. Donc vous voyez, c'est comme une épreuve de qualification. Puisque Jésus réussit là, c'est bon signe pour la suite de sa mission. Si Jésus avait échoué là, il ne serait pas qualifié d'être notre sauveur et notre Messie. Et donc Matthieu montre dès le début que Jésus est qualifié pour accomplir sa mission de Messie, de Sauveur. Et d'ailleurs, c'est le premier et le seul dans toute l'histoire de l'humanité à l'être face à des tentations, face à Satan. Vous avez peut-être entendu parler de ces entretiens d'embauche. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est dans l'histoire, mais une boîte cherche à recruter un commercial pour la représenter et pour décrocher des contrats. Et ils font l'entretien avec plusieurs candidats. Et donc, il pose la question à chaque candidat. Vous savez, dans le monde des affaires, le monde commercial, des fois, il faut passer un peu sous la table. Bon, c'est rien de vraiment illégal, mais vous savez comment ça marche. Est-ce que vous serez prêt à adapter les règles et les lois parce que de toute façon, tout le monde le fait. Et donc, la plupart des candidats qui veulent décrocher l'embauche disent « Bon, oui, pourquoi pas, si ce n'est pas vraiment illégal, j'accepte. » Mais il y a un candidat qui dit « Non, désolé, je ne ferai rien d'illégal, on peut arrêter l'entretien maintenant si vous voulez, mais je tiens à respecter mes principes de droiture. » Et à la fin, l'entreprise dit « C'est celui-là qu'on veut, parce que c'est lui qui nous représente nos valeurs le mieux. » C'est comme ça que s'est passé les entretiens. Eh bien, dans ce texte, c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire, en voyant Jésus faire tout ça, on devrait dire, eh bien, c'est lui que je veux pour me représenter dans le combat contre le mal et le malin. Et on va revenir à ça. Mais Jésus, le premier regard sur ce texte, c'est montrer que Jésus était un sauveur, un roi, un messie qualifié. Un deuxième regard sur ce texte, c'est de voir que le diable est vraiment dénoncé et exposé dans ses stratégies, dans ses façons de faire. Et en regardant la manière que Jésus remporte sur le diable, ça nous aide, nous, à ne pas être enduits en tentation et à être délivrés du malin. Parce que tout au long de notre texte, en fait, Jésus va démasquer les méthodes et les stratégies du diable et les montrer pour ce qu'ils sont vraiment, des mensonges, des ruses, le mal. Jésus dévoile les mensonges du diable, ce qui le rend beaucoup moins dangereux pour nous. Mais dites-vous bien que Satan ici, il se sait confronté avec le Fils de Dieu. Satan savait que Jésus était né à Bethléem, il a vu l'arrivée du Messie. Il a inspiré Hérode pour vouloir massacrer tous les enfants. On sait, selon les textes bibliques, que Satan, en tant que dragon, guettait l'arrivée du Messie. Satan devait certainement être présent lors de son baptême, où les cieux s'ouvrent, la colombe descend, la voix sort, ceci est mon fils. Donc Satan, il est rusé, il n'est pas bête. Donc dites-vous bien que Satan, contre Jésus, va sortir sa plus lourde artillerie. Satan va utiliser ses meilleurs coups. Il va sortir ses meilleures ruses. Satan, devant Jésus dans cette tentation désert, il ne dit pas, par exemple, « Ah, je sais ce qui va faire tomber Jésus. Je vais l'amener dans une maison hantée et lui montrer des phénomènes paranormaux et il va flipper de peur. » Ce n'est pas sa méthode. Il ne dit pas non plus « Je vais me déguiser en personnage de bande dessinée avec cape rouge et fourche et lui parler d'une voix gutturale perchée sur son épaule. » Non, ce n'est pas sa méthode. Et on peut imaginer toutes sortes d'autres méthodes que finalement le diable n'a pas utilisées. Devant le Fils de Dieu, devant son ennemi juré, regardons les tactiques du diable, les mêmes d'ailleurs qui ont bien marché avec Adam et Ève, et donc il va les retenter, c'est sa méthode préférée. Hein. Tout d'abord, notez, si on prend les trois tentations ensemble, notez que Satan, surtout, exploite nos désirs et nos besoins pour des choses légitimes. Mais sa grande stratégie est de faire en sorte que nous les recherchons indépendamment de Dieu ou indépendamment d'une confiance en Dieu. Sa grande stratégie, c'est d'utiliser nos besoins, nos désirs légitimes pour créer des insatisfactions, de l'envie, de la jalousie, de la concurrence avec d'autres. Regardez avec quoi il tente Jésus. Du pain, ensuite de la délivrance divine, il saute du haut de la tente, et puis enfin la gloire et la réussite. Le pain, la délivrance et la gloire, ce ne sont pas des mauvaises choses. C'est des choses d'ailleurs que Dieu va donner à Jésus, certaines dans quelques instants. Il a eu le pain, il a eu la délivrance des anges, en verset 11. Et puis la gloire, il l'avait déjà et il est destiné à ça. Donc Satan tente Jésus avec des choses qu'il a droit d'avoir et des choses que Dieu veut nous donner à tous. Le pain, la délivrance et la gloire. Jésus n'a rien contre ces choses, il en est le créateur. Mais si pour les avoir, Jésus comprend, si pour les avoir, il doit tricher, ou il doit flatter son ego, ou s'il doit devenir idolâtre et négliger Dieu, alors Jésus sait dire non. Mais la force des tentations, c'est quand même dans les choses qui sont légitimes. D'ailleurs, René Girard, une réflexion assez pertinente, il regarde ces trois tentations et il dit, regarde, globalement, ça représente tout ce que l'homme recherche. Le pain, c'est la maîtrise matérielle, économique. Le temple, c'est la maîtrise du divin, du religieux. Et la gloire du royaume, c'est la maîtrise politique. La maîtrise économique, la maîtrise religieuse et la maîtrise politique, c'est ce que les sociétés et les personnes recherchent en permanence. Il y a de quoi pour le corps, le pain, pour l'esprit et pour l'âme, cette réussite, cette gloire. Mais regardez bien, la recherche de ces choses est souvent source de corruption et de conflits dans ce monde parce que la tentation de Satan, le mensonge de Satan, c'est que les fins justifient les moyens vers ces choses. Donc le pain, c'est bien. Mais Satan va dire, pourquoi ne pas voler le pain? Pourquoi ne pas priver les autres de pain pour que toi tu puisses en avoir plus? Et donc le pain qui est une bonne chose, légitime, mais c'est la manière d'y arriver, cette maîtrise économique, et ça s'applique à toutes sortes de domaines. L'argent est une bonne chose, mais quel moyen pour arriver à cet argent? Ou quel processus? Est-ce que c'est la gratification immédiate ou est-ce que je suis prêt à attendre et prêt à partager avec d'autres? Donc Satan veut, à partir des besoins légitimes, veut créer des insatisfactions, des jalousies, de la concurrence qui nous conduit à la violence et à la, on est prêt à corrompre nos principes pour avoir ces choses. Même chose pour, donc ça c'est pour les besoins et les plaisirs charnels, physiques, matériels. Il y a aussi la même chose côté spirituel, religieux, et la même chose côté politique, la gloire du royaume. Mais Jésus, ce qui est fort, il dévoile tout ça, il dénonce que non, c'est une mauvaise voie. Je vais les avoir, si je compte sur Dieu, si je patiente, si je choisis la voie de l'humilité et du renoncement, je les aurai de toute façon quand Dieu décidera de me les donner. Je n'ai pas besoin de me trahir ou de me corrompre pour les avoir. Donc j'y renonce. Et en faisant cela, il dénonce, il expose les méthodes du diable et il nous aide, nous, à le faire aussi. Donc ça, c'est la première chose. Première grande stratégie de Satan, c'est de nous essayer, avec des besoins, des choses légitimes, de nous pousser à vouloir les remplacer, remplacer Dieu avec ces choses ou de les arriver sans Dieu. Toute sa ruse et toute sa force est souvent là-dedans. L'autre chose que Satan fait, c'est qu'il sème le doute concernant l'amour de Dieu pour nous. Constamment, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, tu ne devrais pas avoir faim. Si tu es fils de Dieu, tu peux prétendre à des anges à te délivrer quand tu veux. Ce qui le ferait, ça, Jésus le sait, hein, dans le jardin de Gethsémané, il dit, si je voulais, j'appelle des anges, ils me délivrent. Mais il y a toujours ce doute que Satan veut semer dans nos cœurs. Si Dieu est amour, il n'y aura pas d'épreuves, de difficultés. Si Dieu est ton père, il y aura toujours du spectacle religieux dans ta vie. Si Dieu est ton père, toujours des miracles. Si Dieu est amour, pas d'épreuve, pas de souffrance. Je pense que c'est peut-être le mensonge le plus répandu du diable. Si Dieu est amour, pas de problème dans ta vie. Et beaucoup rejettent Dieu parce qu'ils ont cru à ce mensonge. Si Dieu est amour, il ne devrait pas d'épreuve ou de problème ou de souffrance ou de mal dans ce monde. Mais c'est faux. C'est faux. On le sait que c'est faux. Dieu venait de dire à Jésus, « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Le verset suivant, il l'amène dans le désert pour être éprouvé. Est-ce que entre la fin du chapitre 3 et le début du chapitre 4, Dieu a changé son amour ou Dieu a arrêté d'être aimant envers son fils? Non. Mais il y a des raisons pour lesquelles, des fois, il y a des épreuves et des souffrances qui ne sont pas contraires à l'amour de Dieu. Et Jésus, il dépiste, il dévoile le mensonge. Il sait que Dieu l'aime encore, même s'il passe par la faim, même s'il n'y a pas toujours la délivrance, même s'il faut attendre un temps pour être glorifié. L'amour de Dieu n'a pas changé pour lui. Jésus venait d'entendre que son Père l'aimait, en tout cas 40 jours auparavant, lors de son baptême. Et donc, tout au long du désert, il ne l'oublie pas. Il retient cette vérité. Mon père, mon Dieu a dit, tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, quoi qu'il m'arrive, Satan ne va pas me convaincre du contraire. Et c'est comme ça que nous sommes finalement forts dans les tentations, c'est de nous rappeler. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'était pas 40 jours avant aujourd'hui que Dieu nous dit qu'il nous aime, c'est encore ce matin, par les chants, par la Sainte Cène, par la parole, nous entendons cette voix. Et lorsque nous sommes en Christ, nous bénéficions de la même réalité. Tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, tu es ma fille, je t'aime. Et fort de ça, nous pouvons dénoncer les mensonges du diable. Donc ça, c'est finalement le diable est dénoncé, exposé dans ces manières. On les voit pour ce qui sont vraiment des ruses et des mensonges qui ne tiennent pas la route. Regardez les tactiques de Jésus pour contrer le diable maintenant, pour dénoncer le diable. C'est un des aspects les plus saillants de notre texte. Pour contrer le diable, que fait Jésus? Pour contrer le diable, Jésus n'a pas fait du yoga méditatif. Pour contrer le diable, il n'a pas brûlé de l'encens. Il n'a pas appelé SOS fantôme. Il n'a pas appelé sa mère. Il n'a pas appelé Gabriel, Saint-Michel, tout autre saint. Il n'a même pas fait de miracle d'exorcisme, ce qu'il va faire quand même par la suite avec les démons. Que fait Jésus pour chasser le diable? Il cite la Bible. La Bible que visiblement il connaissait très bien pour la dégainer si rapidement en cas de besoin. Mais je trouve que c'est formidable, c'est rassurant, c'est merveilleux pour nous. Jésus résiste au diable avec les mêmes armes qui nous sont disponibles. Aujourd'hui, ce qui n'empêche pas que le diable aussi connaît bien sa Bible. Mais il n'a pas fait la méthode Coca. Il n'était pas aux cellules regroupées mardi dernier. Il n'a pas fait la méthode Coca. Coca, c'est C pour contexte, O pour observation, C pour compréhension, A pour application. Le diable ne connaissait pas cette méthode. Donc il cite le verset en psaume 91 notamment, hors contexte. Et clairement, c'est une mauvaise application du psaume 91 de Dieu. Monte sur le haut de Saint-Sernin, jette-toi et tu verras si la Bible est vraie ou pas. C'est une mauvaise explication. D'ailleurs, je ne sais pas si le diable a raté le premier C, le contexte, mais s'il avait lu le verset suivant, d'où il cite en psaume 91, c'est « Et tu fouleras le serpent et tu écraseras le dragon ». Donc le diable peut mal interpréter la Bible et nous pousser peut-être à mal comprendre, à mal interpréter la Bible, mais Jésus nous montre que, voilà, comment interpréter la Bible, comment situer peut-être, comment qu'un verset ne contredit pas un autre verset. Et donc quand c'est dit clairement, tu ne tenteras pas Dieu, tu ne provoqueras pas Dieu, tu ne manipuleras pas Dieu avec ce besoin de miracle, voilà, ce n'est pas en contradiction avec le psaume 91 qui dit « Les anges vont te délivrer de la chute ». Et donc, vous voyez, Jésus, c'est ça qui est merveilleux, magique dans ce chapitre, c'est qu'il résiste au diable, il dénonce et expose le diable avec la Bible. Et c'est pourquoi les réformateurs, les protestants, ont voulu revenir à la centralité de la Bible pour le culte et pour la vie chrétienne, en assurant sa plus grande diffusion et sa plus grande compréhension au peuple, parce que c'est ça qui nous rend fort. Calvin disait, vous faites l'œuvre du diable si vous ne mettez pas la Bible dans la main de tout le monde, dans une langue qu'ils peuvent comprendre. Vous faites l'œuvre du diable. Et voilà, pour nous, c'est merveilleux. Vous avez aussi la méthode entre vos mains de résister au diable. Donc Jésus s'est montré un messie qualifié suite à cette épreuve. Il a ensuite dénoncé les méthodes et les stratégies du diable pour les exposer et pour aussi nous aider. Et enfin, nous voyons... On va avancer. Le croyant représenté est sauvé. Évidemment, Jésus, ici, est un exemple pour nous de comment résister à la tentation du péché. Mais la force de ce passage est bien plus que son exemple. D'ailleurs, ce n'est pas une scène où Jésus embarque ses disciples pour leur montrer comment faire à leur tour. D'autres scènes dans les évangiles, hein, c'est vraiment, il va montrer comment être missionnaire, comment être disciple. Donc, suivez-moi, je suis un exemple et vous faites pareil. Ici, c'est pas ça. Ils sont même pas là. Et les 40 jours et 40 nuits de jeûne, je pense, n'est pas un modèle, par exemple, qui nous est imposé pour commencer une nouvelle année. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, mais ce n'est pas un exemple imposé à nous régulièrement. Non, les 40 jours et les 40 nuits, ça fait penser à Moïse, qui lui est seul 40 jours et 40 nuits, comme Jésus, dans le désert, sur la montagne. Cela fait penser aussi à Israël, qui a été tenté dans le désert pendant 40 ans, et qui ont échoué. Donc Matthieu écrit surtout à une population juive qui... En entendant 40 jours et 40 nuits dans le désert, il pense immédiatement à Moïse, il pense immédiatement à l'histoire d'Israël, qui était souvent face aux tentateurs dans le désert, où il manquait de pain, par exemple, et il savait ce que ça a donné. Le peuple a toujours échoué face aux tentations. Donc Matthieu veut surtout montrer dans ce chapitre que Jésus est comme un nouveau Moïse. Il est comme un nouveau libérateur qui confronte pas Pharaon cette fois-ci, mais Satan, pour lui dire « Laisse aller mon peuple, ton règne est fini, laisse aller mon peuple. » Et Jésus, dans ces versets, il va retracer le chemin du peuple de Dieu, mais lui, il va réussir tout seul là où les autres ont succombé à la tentation. D'ailleurs, Jésus cite la Bible, comme nous avons déjà vu, mais le comble, c'est qu'il cite toujours le même passage. C'est en Deutéronome, chapitre 6, 7 et 8. Je ne sais pas s'il avait lu ce matin-là et s'était frais dans son esprit parce qu'il a fait son culte personnel, ou il connaissait tellement bien le contexte de ce passage. Il a tellement bien appliqué Kuka qu'il s'est trouvé exactement dans la même situation où l'application est parfaitement justifiée. On est dans le désert, il manque de pain. Au lieu de me plaindre, au lieu de mettre en doute Dieu et son amour, je vais lui faire confiance, ce que Israël a dû faire. Mais il cite Deutéronome 6, 7 et 8, ce qui est toujours dans le contexte Israël, dans le désert, face à différentes tentations. Et quand on se rappelle de cette histoire avec Moïse et le peuple dans le désert, c'est flagrant. Israël a oublié que l'homme ne vit pas de pain seulement. Mais Jésus, il s'est rappelé que l'homme ne vit aussi des paroles de Dieu. Israël a tenté à provoquer Dieu. Dieu, tu dois nous donner de l'eau, tu dois nous faire ceci, tu dois nous faire des miracles. Sinon, on retourne en Égypte. Eh bien, Jésus, non. Il n'a pas exigé de Dieu tel miracle ou telle délivrance. Il a fait confiance. Israël s'est prosterné devant les idoles. Aaron a lâché tout de suite la tentation de Satan. Suffit de te prosterner devant moi, je te donnerai la gloire et la réussite. Le peuple vit avec la vaudour et tant d'autres idoles. Rapidement, ils ont tombé, mais pas Jésus. Donc vous voyez, là où Israël a échoué, Jésus a réussi. Là où Adam et Ève ont échoué, Jésus a réussi. Là où vous et moi avions échoué, Jésus a réussi. Et c'est ça la bonne nouvelle de toute la Bible. Jésus a réussi là où nous avons échoué et c'est notre salut. À la fin des trois tentations, Satan repart KO. Il a perdu cette bataille-là. Mais il va tenter une revanche. Un nouveau combat solitaire entre les deux sera reprogrammé, peut-être à plusieurs reprises, mais surtout à la croix, au jardin de Gethsémané, au calvaire. Mais là encore, Jésus, au lieu de rechercher le confort matériel, la facilité, la raccourci, au lieu de chercher la délivrance facile, des anges, du miracle, au lieu de rechercher la gloire des hommes, Jésus tient bon face à Satan, justement pour apporter le coup de grâce. Parce que sur la croix, en résistant encore à toutes les tentations du diable, c'était l'heure des ténèbres, mais à la croix, comme nous avons pu nous rappeler ce matin par la Sainte Cène, à la croix, il paie pour nos péchés, Jésus. Il supporte les conséquences de toutes les fois où nous avons cédé à la tentation. Et en faisant cela, il nous arrache aux griffes du malin. C'était ça la réflexion si forte ce matin quand on regarde la croix. Parce que maintenant, pour le croyant, pour le chrétien, même si Satan réussit à nous faire chuter, même si Satan nous réussit à faire tomber dans le péché, on ne peut pas être condamné parce que Jésus a déjà subi la condamnation. Alors, il est vraiment sans ressources majeures. Parce que Jésus nous représente et nous sauve. Il est allé tout seul face au malin, face à la mort. Et en faisant ça, il nous arrache à la mort, il nous arrache des royaumes des ténèbres pour nous transférer dans le royaume de sa lumière. Et c'est ça qui nous sauve, c'est qu'il a été fort, il a réussi, il a été parfait à notre place. Et pour terminer, j'aimerais vous rappeler que de se savoir représenté et sauvé par Jésus est la chose qui va vous aider le mieux à résister aux tentations. Je reviens à ce que disait Baudelaire. Il disait, c'est le diable qui tient les fils qui nous remue. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Voilà la force de Satan. Il prend un objet répugnant, qui est le péché, qui est l'incrédulité, qui est l'abandon de Dieu, qui est l'idée que les fins justifient les moyens pour avoir ce qu'il me faut. Donc le péché, il rend le péché appétissant. Satan arrive à rendre un objet répugnant appétissant par sa ruse et le mensonge. Mais maintenant, si vous connaissez Jésus comme sauveur, c'est moins appétissant. L'objet répugnant devient répugnant et horrible. Maintenant, vous connaissez Jésus comme sauveur. Quand Satan dit, quand le péché vous dit, je t'offre un meilleur salut que Jésus, vous dites, non, n'importe quoi. Je connais Jésus, il m'a représenté, il m'a sauvé. Un morceau de pain ne peut pas faire ça. Une expérience sexuelle ne peut pas me faire ça. Tout l'argent du monde ne peut pas faire ça. Donc, je sais résister à cette tentation parce que j'ai un meilleur sauveur. On apprend à notre dernière petite fille à ne pas dire à ses frères et sœurs, dégage. Mais je vous l'autorise à le dire au diable. C'est ce que Jésus a dit finalement, retire, dégage, parce que tu es vaincu, je suis plus fort que toi. Et nous chrétiens, c'est ce que aussi nous pouvons dire quand Satan vient avec ses tentations, avec ses offres appétissantes du péché, nous disons non merci, n'importe quoi, j'ai un meilleur salut, j'ai un meilleur sauveur en Christ. Prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour ce texte, nous te remercions pour sa manière qu'il révèle aussi les mécanismes du mal, du malin, du péché et dévoile les mécanismes qu'utilise Satan. Nous te remercions de ce que Jésus a été plus fort, il a déjoué les pièges et il nous entraîne dans sa victoire. Nous te remercions de ce que, en plaçant notre confiance en lui et lui seul, en comprenant ce qu'il a fait pour nous dans sa vie et dans sa mort, nous participons à sa victoire contre Satan et contre le mal. Comme nous avons chanté, le tentateur ne redoute que toi. Il n'a pas forcément peur de nous, mais il a peur de toi. Il est impuissant devant toi. Alors nous voulons nous cacher en toi, nous voulons nous réfugier en toi. Nous voulons que Jésus soit notre représentant pour terrasser le mal, le géant. Nous te louons et maintenant nous te prions de nous aider à vivre dans cette espérance, cet optimisme, cette confiance que le mal ne va pas triompher et ce que nous faisons, nos efforts pour lutter contre le mal, le péché dans nos propres vies autour de nous ne sont pas en vain parce qu'un jour le mal sera éradiqué, ton règne va venir et nous avons hâte de ce jour et nous te remercions parce que telle est notre destinée si nous sommes en Christ. Béni sois-tu. Amen.